RPL dans toute la métropole lilloise sur le 99 FM. RPL. RPL 99 FM.
Mémoire de guerre, une émission consacrée au centenaire de la guerre 14-18. Retrouvez Mémoire de guerre tous les seconds mercredis de chaque mois de 14h à 15h.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Mémoire de guerre sur RPL, une émission qui vous parle de la Grande Guerre et de sa commémoration. Vous êtes avec Agathe et nous sommes ensemble jusque 15h. Aujourd'hui, pour cette toute nouvelle émission, nous allons découvrir ensemble un dossier pédagogique proposé par les archives départementales du Nord, sur la ville de Lille notamment, pendant la Première Guerre mondiale. Et pour en discuter, nous sommes avec Marine Vasseur, qui est responsable du service Action culturelle et éducative aux archives départementales du Nord. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, donc, nous allons parler du livre « Fusillés vivants » d'Odette Hardy-Emery, qui aborde la question des fusillés pour l'exemple entre 1914 et 1918. Au programme également de cette émission, l'agenda du mois, tous les temps forts qui vous sont proposés pendant un mois dans la région, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Et donc on commence Mémoire de guerre avec Marine Vasseur. Donc comme je disais, vous êtes responsable du service Action culturelle et éducative aux archives départementales du Nord. Pour commencer, un petit mot sur ces archives départementales.
Alors, les archives départementales du Nord sont situées à Lille, au 22 rue Saint-Bernard, et nous conservons la mémoire du département, donc du 9e siècle à nos jours à peu près, donc ce qui comporte à peu près plus de 60 kilomètres de documents qui parlent des gens du Nord et aussi de leur administration et de leur vie.
C'est énorme.
C'est énorme, c'est une grosse mission, donc on doit les conserver dans un très bon état pour pouvoir ensuite les communiquer en salle de lecture, puisque nous avons une salle de lecture ouverte au public. Chacun peut venir, chaque citoyen peut venir en s'inscrivant comme dans une bibliothèque et consulter les documents qui l'intéressent pour différents sujets.
Alors vous avez réalisé, j'ai appelé ça un dossier pédagogique, mais ce n'est pas vraiment un dossier pédagogique. pédagogique.
Si, c'est un cahier pédagogique, effectivement. C'est un ensemble de ressources qu'on a souhaité mettre à disposition des enseignants ou de tout curieux du sujet, avec des illustrations, donc des photos, des documents, des reproductions de documents, qui permettaient, là, dans ce cas ici, de se faire une idée de ce qu'a été l'île pendant l'occupation, pendant la Première Guerre mondiale.
Alors, comment ce cahier a vu le jour ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre en place ce dossier ?
Depuis plusieurs années, nous menons des actions autour de la Première Guerre mondiale par le biais d'expositions itinérantes que nous prêtons aux établissements scolaires, aux associations, que nous prêtons gratuitement. La rédaction d'un guide des sources, des ateliers pédagogiques spécifiques autour de la Première Guerre mondiale. Et donc, le média Internet, le web, était quand même une façon de toucher plus rapidement et plus vastement, on va dire, le public. Et nous avons souhaité rassembler autour du thème de l'île pendant de l'île occupée, donc un corpus de documents. Alors, l'île occupée, c'est pour nous un exemple de ce qu'a pu vivre bien d'autres villes du Nord, bien entendu. Hein, mais voilà, là, c'était le souhait de mon équipe de travailler sur l'île, ainsi que le souhait du professeur de notre service éducatif, parce que nous avons la chance d'avoir un professeur rattaché à notre service.
Et alors, donc, ce projet, ce dossier, qu'est-ce qu'on retrouve ?
On retrouve une chronologie et aussi des grandes thématiques qui sont transversales aux problématiques de l'occupation. Donc, comment l'île a vécu l'entrée en guerre, comment elle est devenue ville allemande et comment on vivait à l'île pendant l'occupation. C'était important pour nous de retranscrire le quotidien aussi des populations occupées, parce que la situation de l'occupation est très particulière et l'occupation de la Première Guerre mondiale est assez méconnue dans le reste de la France, en fait.
Et alors, justement, comment ce dossier s'est mis en place ? Qui y a collaboré ? Qu'est-ce que vous avez retrouvé ? Comment est-ce que vous avez fait pour collecter tous ces documents ?
Alors, ce sont essentiellement des documents qui proviennent de nos fonds, nos fonds publics, puisque nous recevons, nous conservons les documents produits par les administrations. Donc là, en l'occurrence, ce sont des documents qui proviennent du cabinet du préfet, puisque l'administration française était encore existante pendant l'occupation. Elle cohabitait avec l'administration allemande, ce qui parfois provoquer quelques soucis. Et donc, ce sont des documents, on va dire, assez informatifs, statistiques parfois. Mais c'est vrai que l'administration a cette qualité, c'est qu'elle retranscrit quand même beaucoup le quotidien. Donc, on a pu aussi compléter par des photographies d'époque, des cartes postales également, qui ont pu mettre en image un peu ce quotidien.
Et aujourd'hui, est-ce que vous continuez à enrichir ce dossier ?
On l'enrichit d'une certaine façon. On a ouvert en fait un site web dédié en fait à la Première Guerre mondiale, qui est évolutif et qui là brasse plus largement le département, l'histoire du département pendant la Première Guerre mondiale. Donc, on y retrouve des éléments évidemment sur l'île.
Et donc, ce dossier est pédagogique. Vous l'avez proposé à différentes écoles ?
Il est accessible, donc on en fait la promotion dès que nous rencontrons les enseignants et on communique auprès d'eux et auprès du rectorat et l'académie. Donc après, on n'a pas de visibilité forcément sur l'usage qu'on peut en faire.
Alors tout à l'heure, on va rentrer un peu plus dans le détail, savoir ce qui se passait vraiment dans la ville de Lille pendant cette occupation. Aujourd'hui, nous sommes en 2016, il reste encore 2 ans pour célébrer la commémoration. Est-ce que vous avez d'autres projets ?
Alors, les projets, ça sera certainement de commémorer la fin de la guerre et la sortie de guerre, ce qui nous semble assez essentiel dans le propos, parce qu'on a commémoré l'entrée en guerre et il était important pour nous de marquer le changement que la société a vécu après ce premier conflit mondial. Donc comment des populations se sont relevées, quelles sont les conséquences sur la société, sur l'architecture, sur le paysage. Et voilà, donc là, ça sera vraiment une perspective qui va nous amener sur une réflexion une réflexion sur la société de l'entre-deux-guerres, hein, plus largement.
Et alors, donc, à travers ce dossier, vous participez au devoir de mémoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce devoir de mémoire ? Est-ce qu'il est important de transmettre ?
Il est important de le transmettre et de le transmettre de façon, on va dire, concrète et pratique dans le dépôt, le don d'archives privées, personnelles, aux archives départementales pour que cette mémoire subsiste. Et parce que chacun de nous a connu par sa famille, par ses ancêtres, ses aïeux, ce conflit mondial. Et on en garde trace encore dans les greniers, dans les caves. Et grâce à différentes opérations de collecte que nous avons menées, eh bien, on a vu que cette mémoire était encore là, et qu'il fallait l'aider à se réveiller, parce que tout à chacun a du mal à se dire que voilà, les documents, la lettre de l'arrière-grand-père qu'on a chez soi peut intéresser un plus large public que soi, en fait.
Et vous avez collecté beaucoup de documents comme celui-ci ?
Oui, depuis 2013, l'année de la première collecte, on continue d'engranger voilà, des documents donc très diversifiés, de typologies très différentes. Ça va de la plaque stéréoscopique aux lettres, aux journaux de guerre, aux photos, aux cartes manuscrites de camps de prisonniers, etc.
On va en parler dans quelques instants. On va parler notamment d'ailleurs de la ville de Lille pendant la Grande Guerre. Mais juste avant, on se quitte quelques instants en musique avec Aretha Franklin. A tout de suite sur RPL. De retour dans l'émission Mémoire de guerre, je suis toujours en compagnie de Marine Vesser. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre en avant la ville de Lille dans votre dossier ?
Parce qu'en 1916, enfin, je veux dire en 2016, on souhaitait marquer deux événements importants pour la ville de Lille, sont dans un premier temps l'explosion des 18 ponts. Donc, les 18 ponts, c'est un quartier de Lille-Moulin. Enfin, ça se situe à Lille-Moulin. Et aussi l'incendie de l'hôtel de ville. Et donc, la mairie de Lille a valorisé d'ailleurs ces deux événements lors de manifestations cette année.
Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi l'explosion des 18 ponts ?
Alors, les 18 ponts, c'était un bastion, en fait, puisque c'était sur la ligne de fortification de Lille, donc situé en bordure du boulevard de Belfort, actuellement. Et donc, c'était un dépôt de munitions qui a explosé, donc le 11 janvier. Et c'est les Allemands en fait qui entreposaient leurs munitions et leurs explosifs. Et tout le quartier a été complètement dévasté à la suite de cette explosion. Et notamment des usines, puisque c'était un quartier très industriel, puisque les entreprises, les industries étaient en ville à l'époque encore. Et les usines ont été complètement soufflées par l'explosion. Il faut s'imaginer aussi le bruit de cette détonation. Et on peut quand même aussi déplorer 104 victimes civiles, ce qui était très important, ce qui est toujours très important, de toute façon, de déplorer des victimes civiles. Et beaucoup de blessés. Et donc voilà, cette explosion, pendant un moment, on s'est dit que c'était un attentat, une opération un peu obscure. Et en fait, il s'avère que voilà, il s'agissait vraiment d'une détonation spontanée d'explosifs de mauvaise qualité.
Et alors, plus globalement, comment la ville de Lille a été occupée ?
Alors, la ville de Lille a été occupée de façon très concrète, et ça se voyait en sortant de chez soi. Les panneaux d'indication étaient en allemand. Les Lillois vivaient à l'heure allemande. Donc, c'était quand même assez particulier. Les Allemands défilaient sans cesse, les troupes allemandes, parce que l'objectif, c'était quand même de maintenir le moral de la population le plus bas possible pour éviter toute résistance ou toute contestation. Donc avec une présence et une pression quand même quotidienne sur les populations.
Et alors comment les Lillois ont vécu cette occupation ?
Ben, ils ont fait ce qu'ils ont pu, parce que leur priorité, c'était de trouver à manger. Le matin, c'était aller voir à la cuisine populaire ce qu'on pouvait récupérer. C'était essayer de trouver des nouvelles aussi des proches qui étaient sur le front. Parce que l'occupation a la particularité de couper toute relation avec le reste de la France. Donc c'était assez compliqué. Et c'est un extrême dénuement. Une impression de solitude et d'isolement. Les nordistes se sont sentis complètement abandonnés et seuls pendant cette période de 4 années.
Et justement, pendant cette période, ils ont subi de nombreuses restrictions.
Des restrictions. Les Allemands réquisitionnaient tout ce qu'ils pouvaient. Parce que les Allemands étaient quand même dans une crise économique qui commençait à se faire sentir rudement. Et donc, il fallait que les Allemands puissent payer sur la bête, je dirais, pour pouvoir faire vivre leurs troupes. Donc, c'était des réquisitions aussi de logements pour le cantonnement des troupes. C'était des bicyclettes, c'était des poules, c'était des matelas. Donc, tout passait au crible de la réquisition.
Mais la ville de Lille n'a pas été occupée entièrement.
Si.
Si, si.
Si, si. C'est le département, en fait. Le département n'a pas été... il était occupé aux deux tiers. Donc, il y a toute la côte qui n'était pas occupée.
Très bien. Et on va parler un petit peu plus de votre collecte. Est-ce que vous avez fait des découvertes qui vous ont marqué ?
Alors, les collectes, elles ont été organisées d'un point de vue national par le service interministériel des archives de France. On a bénéficié d'une campagne médiatique assez forte en 2013. Et à l'ouverture, donc c'était en novembre, on s'est retrouvé avec 200 personnes qui étaient là aux archives pour donner leurs documents et parfois même des objets. Enfin, pas pour les donner, pour les confier pour qu'on les numérise. Et certains ont souhaité donner aux archives leur histoire familiale. Et donc, ça allait du casque à la petite boîte fabriquée en tranchée, à la paire de lunettes, à la montre, aux journaux de guerre rédigés soit pendant l'occupation, donc par des personnes, des civils, ou alors par des soldats. Et c'était une typologie très diversifiée d'archives, je dirais, même d'objets. Et ce qui était le plus fort, en fait, c'est pas tant ce que les gens nous livraient, c'est la façon dont ils le livraient. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et ça transpirait de partout. On a été assez bouleversés, en fait, par ce côté transmission. Vous parliez de transmission tout à l'heure. Et on était vraiment dans cette dynamique-là. Et parce que les gens racontaient leur histoire. Et donc, il y a une espèce de... Voilà, écoutez, voilà, j'amène mon histoire, et écoutez-moi. Et donc, ça nous a permis de renseigner, de construire aussi l'histoire. Parce que parfois, on a un document. Voilà, un journal d'une jeune femme, par exemple, mais on ne sait pas du tout qui elle est, si elle était mariée, quelle était sa profession. Donc là, le fait de parler avec ces personnes nous a permis de vraiment poser les choses.
Et justement, est-ce que vous auriez quelques exemples de journaux, d'articles, de choses que vous avez pu récupérer ?
Alors oui, on a par exemple... Alors, ce ne sont pas des exemples... Alors, faut savoir que c'est ces documents... retrace l'histoire de la guerre dans tout le département. Les gens sont venus de partout du département pour nous confier leur histoire. Et donc là, par exemple, il y a les documents de deux sœurs, enfin, notamment un journal qui est rédigé par deux sœurs qui habitaient Frelinghien et qui ont dû se réfugier à Quesnoy dès le début des conflits. Et elles ont tenu un journal donc où elles ont parlé de des fusillades, de bombardements. Et notamment, là, j'avais relevé le passage du 25 décembre 1914 où elles parlent de la trêve de Noël, hein, qui est célèbre de par le film qui avait été réalisé il y a quelques années. Et là, je peux citer quelques phrases si vous le souhaitez. Allemands et Anglais ont suspendu pour un jour leur haine et ont correspondu entre eux la veille. D'une façon très simple, une longue corde à l'extrémité de laquelle une pierre est attachée, tandis qu'à l'autre bout est liée une pancarte avec demande d'armistice et lancée dans la tranchée anglaise. Après quelques instants, la réponse est donnée. On ne tirera pas le jour de Noël. Voilà la promesse réciproque de deux adversaires. Le 25 décembre, en effet, les ennemis se sont visités dans leurs tranchées respectives. Les Saxons que nous longeons ont été manger le pudding anglais, tandis qu'ils offraient leur gâteau allemand, par exemple. Voilà, donc c'est des choses qui sont très vivantes. Et le temps que les gens passaient déjà avec cette nécessité de garder trace de ce qu'ils vivaient, est quand même assez impressionnant. On a un autre exemple aussi d'un fonds, là ici, photographique, d'une personne, d'un monsieur qui était infirmier, médecin même, pendant la guerre. Et effectivement, on peut y déceler, c'était le médecin-major Alphonse Dubu, et qui était né à Rosendal et qui était docteur en médecine dès 1911 et était spécialiste en gastro-entérologie. Et donc, il est l'auteur de vues stéréoscopiques que nous détenons et qui ont été prises pendant tout le conflit. Et on y découvre le quotidien des soldats, les tranchées, les villages en ruine, des prisonniers allemands dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, en Allemagne. Et certaines vues, d'ailleurs, montrent le bombardement de l'île Five en octobre 1914, notamment.
Et vous avez également collecté des documents un peu plus insolites, des recettes de cuisine. Qu'est-ce qu'on mangeait
Alors,
pendant...
ça, ce n'est pas de la collecte. En fait, c'était ça figurait en fait dans le Bulletin de Lille, qui était un journal qui paraissait le dimanche et le jeudi et publié sous le contrôle de l'autorité allemande. Parce que, évidemment, l'occupation passe aussi par le contrôle de l'opinion. Et donc, la presse, les Allemands ont aussi amené leur presse. Et donc, ça s'appelait le Bulletin de Lille. Et donc, on y donnait parfois quelques nouvelles. Bon, bien sûr, il faut passer au crible des efforts de la propagande. Et donc, il y avait effectivement des cours de cuisine qui étaient proposés par le comité d'alimentation du nord de la France, qui était un comité spécifique qui est... Parce que voilà, effectivement, l'humanitaire a débuté avec la Première Guerre mondiale, avec ce comité d'alimentation du nord de la France, qui était d'abord un comité hispano-américain. Et qui fournissait des denrées via la Hollande aux populations équipées. Et donc, ils avaient le droit, en accord avec l'occupant, de fournir des denrées de première nécessité aux populations. Et donc, effectivement, on a des cours de cuisine qui sont proposés aux populations. Alors, vous allez dire, c'est quand même un peu frivole dans ce contexte, mais bon, voilà, c'était comment aussi faire à manger avec rien. Et des recettes aussi qui paraissaient régulièrement. Donc on a des recettes de beurre de guerre avec des ingrédients quand même assez... Donc de l'eau, de la céréaline, du sel, de la poudre de lait, du café de lait, du lait condensé. Le 4 quarts de guerre qui était composé à partir de riz, de sucre, d'œufs crus et du lait Nestlé. Voilà, ou du lait ordinaire, suivant ce qu'on trouvait. Donc, avec un peu de saindoux, du beurre. Donc voilà, c'était une façon de se débrouiller. C'était le système D qui se mettait en place.
Et est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter pour terminer cette interview ? Une anecdote sur cette collecte, sur la mise en place de ce dossier ? C'est la question un peu piège.
Ouais.
Peut-être sur une rencontre qui vous a marqué ?
Bah oui, moi, personnellement, j'ai rencontré un monsieur qui est venu m'apporter des lettres de son grand-oncle, duquel il était très proche. Et c'était un grand-oncle qui avait vécu tout le conflit jusqu'à l'occupation de l'Allemagne. Parce que les Français, une fois victorieux, ont quand même occupé l'Allemagne pendant 2 ans après l'armistice. Et c'était très fort parce que c'était la première fois qu'il les montrait, ces lettres. Et on s'est surtout attaché à lire les lettres de la période de l'occupation qui dénotaient une germanophobie mais incroyable et avec un esprit de « mais voilà ». Ils ont fait payer, enfin, c'est faire payer ce qu'ils ont fait vivre à ma famille qui était restée, qui était occupée pendant la Première Guerre. Et donc, pendant toutes les lettres, c'est voilà, ce sont des cochons, enfin, avec vraiment des invectives et des injures par rapport par aux Allemands. Et ce monsieur a pleuré, en fait, parce qu'il était complètement, je pense, submergé par l'émotion. Et donc, c'était un moment assez, assez fort, ouais.
Et alors, où est-ce qu'on peut retrouver ce dossier ? Le dossier du département du Nord, il est en ligne. Est-ce que vous avez le site internet ?
Oui, archivesdépartementales.lenord. www.archivesdépartementales.lenord.
Très bien, merci beaucoup. Alors, Mémoire de guerre, ça continue. On va se quitter quelques instants en musique avec Frank Sinatra, comme Fly With Me. On se retrouve juste après. Et cette fois-ci, on va parler de l'exemple des... On va parler des fusillés. Pour l'exemple, à tout de suite.
Fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you.
Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Waited just to love you now that
Et vous venez juste d'écouter Diana Krall, The Look of Love. Tout de suite, nous allons parler d'une histoire incroyable racontée par Odette Hardy-Emery dans son ouvrage Fusillé vivant. Au travers d'une enquête historique mêlée de témoignages épistolaires, cette professeure émérite à l'Université de Lille pose la question des fusillés pour l'exemple, et nous conte l'invraisemblable récit d'un homme mort deux fois. Cet homme, c'est François Waterloo. Ce réserviste valenciennois de 26 ans participe au début de la guerre à la bataille de la Marne. Dans la nuit du 6 au 7 septembre 1914, pris sous le feu ennemi, son régiment, le 327e d'infanterie, recule sous la pression du 270e avec lequel il se mêle. Alors qu'ils essaient de réintégrer leur régiment, François Waterloo et 6 de ses camarades tombent nez à nez avec le général Boudegour. Celui-ci les accuse d'abandon de poste, une accusation totalement dénuée de fondement.
C'était pas du tout ça, parce qu'il n'y avait même pas eu de rencontre avec l'adversaire, avec l'ennemi. Ils sont enfermés et le lendemain, sans être prévenus, sans procès, les soldats sont emmenés pour être exécutés.
On nous emmena en face d'une meule, on nous banda les yeux et l'on plaça une section d'environ 39 hommes à 12 mètres de nous. J'étais placé à droite et nous nous étions donné la main à l'un l'autre. À la première décharge, je me laissais tomber, mais je n'avais rien. Puis l'on fit retirer une fraction du peloton sur ceux qui bougeaient encore. Ensuite, l'adjudant qui était là vint pour nous donner le coup de grâce en nous logeant une balle dans la cervelle. Il commença par la gauche, et quand il eut tiré sur les deux premiers, il dit au capitaine qui commandait qu'il ne pouvait plus continuer, que ça lui faisait trop de peine. Le capitaine lui dit de s'assurer si nous étions bien morts, et en passant, il nous fit bouger en nous pressant par les épaules. Ce n'était pas le moment de bouger.
2 heures après, il se relève, tout le monde est parti, il rejoint son régiment, et là, ses chefs directs intercèdent auprès de Boutegour et il est gracié. Boutegour ne peut quand même pas le faire refusiller. Et il dit qu'il fasse son devoir et que cet homme se conduise bien. Et il sera tué au combat d'ailleurs, bien sûr, en juin 1915. Alors, les suites. Eh bien, les suites, il faut attendre 1917 pour que cette affaire soit révélée. Cette affaire est connue à partir de 1919-1920, avant on ne sait rien. Quand cela est connu, l'opinion est absolument révulsée. Et donc il y a une longue campagne entre 21 et 26 de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi d'autres associations, l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, qui se joignent ensemble et qui préviennent l'opinion publique. L'opinion publique a joué un grand rôle pour la réhabilitation et il faut attendre 1926 pour qu'un tribunal soit formé pour réexaminer ces cas. Et donc son affaire vient en jugement et là il est réhabilité. Après la guerre, « Mon ami, tu iras trouver mon frère et tu lui diras que je ne suis pas mort à la guerre, mais que j'ai été assassiné. » Donc on se rend compte à cette requête que les fusillés savent que la mort atroce qui leur est imposée, être tué par ses camarades, va être dissimulée et que leur calvaire va être nié. Et tout ça, il faut bien se rendre compte qu'on n'est qu'au début de la Grande Guerre, 7 septembre 1914.
Ben, l'état-major de cette époque, et qui n'est pas toujours très différent aujourd'hui, ne tenait certainement pas à ébruiter cette affaire scandaleuse, quoi. Il y a eu aussi une part d'ignorance quand même volontaire de rechercher plus avant ce qui s'était réellement passé pour qu'on en vienne à cette exécution totalement arbitraire.
La plus d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats, loin de tout le monde, sont là-bas.
Il y a une sorte quand même de consensus avec le milieu militaire qui fait que le milieu politique ne veut pas trop le heurter. Ils ont dit des choses, mais ils ne sont pas encore allés jusqu'au bout.
Pour Antoine Pro, président du conseil scientifique de la mission du centenaire et rédacteur du rapport « Quelle mémoire pour les fusillés de 1914-1918 », un point de vue historien, il serait faux de dire, je cite, que le sujet était à bout et que la République n'a rien fait.
C'est à la fois vrai et à la fois faux. Il est un peu au milieu du guet, Antoine Prost. Hein. Évidemment, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, mais tout n'a pas encore été fait, parce qu'il se peut qu'il y ait encore des affaires comme ça, qu'on connaisse mal ou qui sont restées dans l'ombre. Le travail des historiens n'est jamais terminé, il n'est pas fini. D'ailleurs, c'est heureux, oui.
Il suffit de regarder le rapport d'Antoine Pro qui a été remis, il y a 4 possibilités.
Daniel Dubois, président de la Fédération du Nord de la Libre Pensée, partisan d'une réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple.
Une réhabilitation au cas par cas, une réhabilitation collective. Alors là, vous avez la montée, vous n'avez qu'à regarder sur Internet la liste des associations d'anciens combattants qui, là, il y a élevé de bouclier. Un lieu de mémoire, le troisième. Et quatrième, on fait rien. Quatrième, on fait rien.
Il faut que cette place soit respectée, revalorisée et bien servie. Le président de la République est quand même, il a une forte responsabilité par son influence sur l'opinion. Il peut aussi faire ressurgir pas mal de choses, inciter à ce que l'on connaisse. Donc ces paroles sont importantes de ce point de vue-là, très importantes. Elles peuvent porter, elles doivent porter.
Bon, nous, ce que l'on essaye de faire actuellement, c'est de lancer une souscription pour mettre un monument à la mémoire des fusillés, pour l'exemple, quelque part sur le chemin des Dames. On a un lieu, on a pris contact avec un maire. On ne donne pas le nom du maire, on ne donne pas le nom du lieu. Bah oui, parce qu'il y aura des pressions.
Voilà. Merci à tous ceux qui s'intéressent à cette reconnaissance et à cette histoire tragique.
Vous pouvez donc découvrir cet ouvrage, l'ouvrage d'Odette Hardy-Emery intitulé « Fusillés vivants ». Je propose qu'on se quitte quelques instants en musique avec Louis Armstrong, « La vie en rose ». On se retrouve juste après. À tout de suite.
Magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La vie en rose.
à cheval. Somebody waits for me, sugar sweet, so as she said bye. Somebody shines light. I'm coming on home tonight now. Bye. I want to say bye bye.
Et on termine Mémoire de guerre avec notre agenda du mois. Jusqu'au 31 décembre, découvrez Bapaume, ville de mémoire européenne et océanique. Bapaume organise un cycle de commémoration en partenariat avec l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, autour notamment de la mort du pilote Oswald Bolk, et c'est organisé par la mairie de Bapaume. À découvrir également les sites de mémoire du territoire de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, c'est jusqu'au 31 décembre, afin de proposer un regard plus intime sur la vie des soldats et des civils, les visites guidées des sites de mémoire sont ponctuées par des interventions d'artistes, des comédiens ou encore des conteurs. Et c'est organisé par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Et maintenant, on va parler d'un spectacle qui vous est proposé en 2017. Ces inconnus chez moi, c'est proposé par la compagnie de théâtre Dire d'Étoiles et organisé par cette même compagnie. Cette lecture spectacle raconte la Grande Guerre à partir des témoignages de ceux qui l'ont vécu. Ils sont indiens, canadiens, néo-zélandais, australiens, américains, amérindiens, africains, annamites, chinois ou encore égyptiens, soldats, réfugiés, prisonniers de guerre, infirmières, contingents de travailleurs, tous venus des quatre coins du monde et ils côtoient femmes, enfants, vieillards, confrontés à leur quotidien douloureux. Ce spectacle est présenté par deux artistes, une comédienne et une chanteuse accordéoniste. Cette lecture-spectacle propose d'entendre leurs témoignages, des lettres et des chansons racontant le quotidien à l'arrière et au front. Rendez-vous le 11 mars prochain à la salle de la Corderie à Étaples-sur-Mer pour découvrir ce spectacle. Et on termine cet agenda par une exposition « Peut-être qu'ici un jour ». C'est une exposition de photographie pour rendre compte de la vie de ces soldats qui ont fraternisé un soir de décembre 1915. C'est organisé par la communauté urbaine d'Arras. Et pour la voir, eh bien, direction le monument des fraternisations à Neuville-Saint-Vaast. Et c'est jusqu'au 30 avril prochain. Voilà, Mémoire de guerre, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast très prochainement sur le www.rpl99fm.com. Et à partir du mois de janvier, cette émission vous sera proposée tous les deux mois. Donc le prochain rendez-vous, c'est en février. Restez branchés sur RPL, toute la programmation continue. Vous retrouverez tout de suite Paroles et Insertion. À 16h, vous avez rendez-vous avec Darnaud dans Rock Pop Live. Bonne fin de journée à tous. Et on se quitte en musique avec Frank Sinatra, That Life.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and